Donc on prend la page 33B5 et on est à Matkif. Matkif là, Rami Bahama. Quand Rami Bahama, il pose la question suivante.
Je vais pas faire un petit résumé.
Je vais faire un petit résumé. Qu'est-ce qu'on a dit, de quoi on a parlé? On a parlé dans la Mishnah, on a commencé la Mishnah, Amafkid et Tsechavero, Behemot Okelim. Donc celui qui donne à garder à son ami un animal ou des ustensiles. D'accord? Donc je donne à garder, c'était Yaakov, je donne à garder à Yaakov un animal ou des ustensiles. Et il prétend qu'ils ont été perdus. Oui, prétend. D'accord?
J'ai cru.
Attends, après on parlera de bientôt. Il prétend qu'ils ont été perdus. D'accord? Donc on a dit qu'il y a deux options. Il prétend qu'ils ont été perdus. Normalement, il doit au minimum au moins jurer qu'ils ont été perdus, qu'ils ont été volés. Donc il y a deux options possibles. C'est quoi les deux options, Yaakov? Première option, c'est que tu
payes.
Tu payes. Tu me dis, écoute, tu sais quoi, j'ai pas envie de jurer, j'ai peur de mal jurer, parce que quand tu vas jurer, je vais jurer sur le Sefer Torah que j'ai fait tout mon possible pour garder. Qui peut assurer qu'il a fait tout son possible? Alors, je te paye. Très bien. Alors c'est quoi le problème? Plus tard, on retrouve le
voleur.
On retrouve le voleur. D'accord? Et donc, puisque Yaakov m'a payé pour ne pas devoir jurer. Donc maintenant, l'objet appartient à qui?
À Yaakov.
À Yaakov. Donc si on retrouve le voleur, que le voleur doit payer double, à qui il paye double?
À Yaakov.
À Yaakov. Si maintenant, Yaakov, tu écoutes, moi j'applique la règle, c'est écrit qu'il faut que je te jure, il n'y a pas de problème, j'ai rien à me reprocher. Donc il me jure. D'accord? Il me jure, et quelques jours plus tard, on retrouve le voleur.
Le voleur.
D'accord? Donc le voleur paye le double. À qui il paye le double? À Yaakov ou à moi?
À toi.
Là, il n'a pas payé Yaakov. Donc, à qui il paye?
À toi.
D'accord? Yaakov, il paye un mois. Très bien.
Mais pourquoi il y avait l'ustensile et l'animal, alors?
Ça, c'était la semaine dernière. D'accord, mais ça, je ne vais pas m'arrêter dessus, parce que, de toute façon, c'est la Gemara. La Gemara a expliqué pourquoi il y avait l'ustensile et l'animal. D'accord?
C'est mon regard.
Ok. Alors, maintenant, écoutez bien la question de la Gemara. C'est ce que je vous avais prévenu la semaine dernière, je vous avais expliqué la semaine dernière. Il y a un principe qui dit que « En Adam Makne Davar Shelo Bale Olam » et qu'on va développer en long et en large aujourd'hui. Il y a un principe qui dit que je ne peux pas... Alors d'abord, je vais expliquer ce que c'est le kinyan. D'accord? Dans la Torah, quand j'achète quelque chose à quelqu'un, je suis obligé de passer par un kinyan, c'est-à-dire par un mode d'acquisition. D'accord? Donc le mode d'acquisition, il y a plusieurs modes d'acquisition. Le mode d'acquisition, ça peut être par un contrat, ça peut être...
Par la parole?
Par la parole, non. D'accord, il faut que, à part la parole, il faut que ce soit formalisé par quelque chose. Donc ça peut être par un contrat, ça peut être par le fait d'avoir payé la chose, l'argent. D'accord, ça peut être par le fait d'avoir pris possession de la chose. Il y a plusieurs méthodes. Il y a d'autres méthodes que les Chachamim ont rajoutées. Mais il faut faire un certain acte, une certaine action. C'est ce qu'on appelle un kinyan. Kinyan, donc c'est un mode d'acquisition. Maintenant, il y a un principe que les Chachamim ont dit. Que en Adam Makne Davar Shelo Baleola. Qu'un homme ne peut pas faire acquérir quelque chose qui n'existe pas. Ça veut dire, imaginez-vous que Yaakov, d'accord, bon, on va parler de Daniel maintenant.
Il y a une vache avec
d'accord.
Un beau.
Daniel, il m'achète quelque chose. Il m'achète quelque chose. Maintenant, c'est une chose qui n'existe pas encore. C'est une chose qui va arriver par la suite. D'accord.
On m'a fait le coup cette semaine.
Il m'achète quelque chose, mais qui n'existe pas. C'est l'eau balle. Alors, attention. Parce que, là, on va parler de beaucoup de choses. Parce que, par exemple, quand on vend un magasin, on vend un chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, est-ce qu'il est déjà arrivé? Le futur chiffre d'affaires.
C'est la scène arabe, quoi.
Attends.
Non, s'il te plaît.
Est-ce qu'il est déjà arrivé?
Non, mais on se base sur le précédent.
Très bien. Alors justement, on va développer. C'est pas simple du tout. Le principe, il est que normalement, en Adam Makne d'avoir chez l'eau balé en l'âme, ça veut dire en Adam Makne, un homme ne peut pas faire acquérir, ça veut dire il ne peut pas donc vendre, d'avoir chez l'eau balé en l'âme, d'avoir une chose chez l'eau balé en l'âme qui n'est pas encore venue dans le monde. Pourquoi? D'accord? Alors, il y a plusieurs raisons.
Ça peut être de l'argent.
Attends.
Ça peut être un immeuble.
C'est des raisons, d'accord? Non, ça peut, on va donner des exemples. Par exemple, tu vends l'exemple classique, si tu vends les fruits du palmier alors que le palmier n'a pas encore donné les fruits. Alors, on ne sait pas, il peut se passer... Attends.
C'est bon.
Peut-être qu'il est bon, tu veux nous parler de ton cas, c'est ça?
Il peut se passer, apparemment ça risque de frôler la sonara, donc on va l'éviter.
Allez, on évite, d'accord. D'accord, on évite.
Il risque de...
Il est dans le cou, je vois que
c'est... Donc... En Adam Makne d'avoir chez le balolam, on est en train de dire que je peux pas vendre quelque chose qui n'est pas encore venu, je peux pas vendre quelque chose qui n'existe pas encore sur Terre. D'accord? Alors, il y a plusieurs raisons. On expliquait surtout dans la Gemara et Vamot. Je vous ai expliqué à l'oral les deux raisons. D'accord? les deux raisons qui sont expliquées pourquoi je ne peux pas vendre quelque chose qui n'existe pas, même si, a priori, ça va exister par la suite. Si je le vends, c'est que ça va forcément exister. Il y a deux problèmes. Le Nimouké Yosef explique qu'un problème, c'est quoi ? C'est qu'on a un problème dans ce qu'on appelle la smichut da'at. Écoutez bien. Smichut da'at, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que lorsqu'on fait une transaction, mis à part le fait que l'acheteur m'a payé, il a fait tout ce qu'il a voulu, il m'a payé, même s'il m'a donné de l'argent, etc., il faut qu'on puisse prouver que l'acheteur était conscient de ce qu'il faisait et qu'il était d'accord à 100% avec ce qu'il faisait, d'accord ? Et que pour lui, il a acheté quelque chose. Pour lui, il est content, c'est-à-dire il est conscient qu'il achète quelque chose et que dans sa tête, il dit « je suis content, j'ai acheté quelque chose ». Mais s'il n'y a pas ça, si par exemple dans sa tête, il était là en train de jouer, de rigoler, ça pose problème. Et je vous expliquais ce principe de smichut da'at, il va jusqu'à où ? Vous savez, des fois, on fait un tirage au sort.
Un goral.
D'accord ? On fait un goral. Donc c'est quoi un goral ? C'est-à-dire que chacun va mettre de l'argent dans ce qu'on aurait appelé un pot aujourd'hui. D'accord ? Et après, à la fin, il y en a un qui va gagner. Le problème, explique Maïmonides, le problème est que c'est possible que lorsqu'il y aura un gagnant, donc il y en a un qui va gagner, c'est possible qu'un des autres, ou plusieurs des autres, ne vont pas avoir cette fameuse smichut da'at. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ouais, de toutes les façons, je ne voulais pas jouer. D'accord ? Ouais, sinon je n'ai pas gagné, je ne voulais pas jouer, c'était pour rigoler. Même s'il le dit en rigolant, même s'il ne le dit pas, il le pense. Le problème, c'est que cet argent devient de l'argent volé.
Oh, mais là, il a fait l'action.
Attends, une seconde. C'est ça le problème. C'est que, mis à part l'action,
je crois pas.
D'accord, mis à part la transaction, il faut une smichut da'at. Ça veut dire qu'il faut que le Bedin puisse estimer que la personne était derrière son acte. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on fait dans le goral ? Dans le goral, on dit toujours que tout le monde va gagner quelque chose. Comment on fait ça, par exemple, quand on fait un goral pour aller chez le rabbi ? On dit que celui qui va aller chez le rabbi, il va prendre les noms de tout le monde et il va les amener au rabbi. Comme ça, on lui dit, écoute, c'est soit tu gagnes le gros lot, soit tu gagnes un petit lot. Toi, tu as gagné le petit lot. Là, dans ce cas-là, à la réponse, il n'y a plus le problème de smichut da'at. D'accord ?
Smichut, c'est d'avancer ?
Non, smichut da'at, ça veut dire, littéralement, ça veut dire poser sa tête, Ça veut dire être d'accord sur ce qu'on fait. Très important dans les affaires, ça. Et des fois, on peut faire tomber toute une affaire à cause de ça. Si l'acheteur arrive à prouver qu'il n'était pas derrière, que bon, il rigolait, ça saute. Le principe du smichut da'at est un principe très important. Est un principe qu'on peut appliquer dans les affaires, est un principe qu'on peut appliquer même dans les mariages. Si quelqu'un arrive à prouver qu'il rigolait.
D'accord ? Je déconnais, oh.
Ouais, je rigolais, puis après, bon, je fais
d'accord.
L'enchaînement.
D'accord ? Smichut da'at. Alors, on revient à notre sujet. Rappelez-vous ce qu'est notre sujet. Je vends quelque chose qui n'existe pas encore. D'accord ? Donc je vends quelque chose qui est amené à exister. C'est un problème. Pourquoi c'est un problème ? C'est un problème puisque il y a un problème dans la smichut da'at. On considère que l'acheteur, d'accord, vous connaissez cette explique, il dit on considère que l'acheteur n'était pas derrière à 100%. Il n'est pas conscient qu'il achète. Pourquoi il n'est pas conscient qu'il achète ? Parce que l'objet n'existe pas. On est d'accord ? C'est un problème, puisque l'objet n'existe pas. Donc on considère que l'acheteur n'était pas derrière à 100%. Donc puisque l'acheteur n'est pas derrière à 100%, donc la vente est caduque, c'est comme si qu'il n'y a pas eu de vente. Ça c'est une première raison.
Bon sens moral.
Le Kovet Shiurim, d'accord, de Rav Wasserman, il y a beaucoup de raisons, mais je me focalise sur les deux raisons principales. Le Kovet Shiurim de Rav Wasserman explique encore une autre raison. Très connu dans le monde des Shiurim, Kovet Shiurim. Il dit que le problème n'est pas chez l'acheteur, d'accord ?
C'est vendeur.
Le problème, il est dans ce qu'on appelle Koach HaKna. Koach HaKna, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, il nous explique que le fameux Kinyan que je vous ai dit tout à l'heure, le mode d'acquisition, il explique, c'est très intéressant, il y a tout un exposé sur ça, le Kovet Shiurim, dans lequel il explique, il dit que pour qu'une acquisition se fasse, il faut que l'objet existe. Puisque dans la Torah, l'acquisition ne peut pas être fictive. Il y a tout un exposé sur ça pour expliquer que dans la Torah, une acquisition ne peut pas être fictive. Et que pour que l'acquisition marche, il faut que l'objet existe. Il faut que l'acquisition repose sur quelque chose. D'accord ? Donc deux raisons pour lesquelles je ne peux pas vendre quelque chose qui n'existe pas. Qu'est-ce qu'on a expliqué ? Première raison, c'est parce que l'acheteur l'acheteur ne suit pas. Il rigole. Et deuxième raison, qu'est-ce qu'on a expliqué ? Quand on a une acquisition, il faut que l'acquisition se repose sur quelque chose. Si elle n'a pas quelque chose sur quoi se reposer, de matériel ou physique, on considère que c'est fictif.
Donc
puisque c'est fictif, c'est
vrai.
Je donne un exemple. J'ai vendu quelque chose à Daniel. J'ai vendu les fruits du palmier. Mais le palmier il est là, mais il n'a pas encore donné ses fruits.
Mais s'il t'a payé pour te réserver les fruits...
D'accord. Très bien.
Oui, ça marche. Mais tu te reposes sur quelque chose.
Voilà. Dans ce cas-là, attention. Ce n'est pas la même chose que tu m'as dit. David vient d'un autre qui a dit « j'ai payé pour réserver les fruits ». Ah non, c'est pas de ça que je parlais. J'ai dit, j'ai vendu les fruits.
Ah, mais si t'as pas donné en retour...
Non.
Si tes fruits poussent, c'est toi, il n'a jamais les chercher.
J'ai payé les fruits. Alors, c'est pas la même chose.
Oui.
Payer une avance. Tu comprends? Payer une avance pour un service que tu vas... Ça, c'est autre chose.
Peut-être que la Guémara...
Pas du tout.
C'est d'avoir une contrepartie.
Ah non. Et là, je parle de vendre quelque chose. Je t'ai vendu quelque chose qui n'existe pas encore. Alors, attention, la Guémara va développer, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de détails autour de ça. Et vous allez voir comment on va tourner autour de notre Mishnah. Donc le principe, il est En Adam Makne Davar Shelo Ba Leolam. En Adam Makne. Donc un homme ne veut pas faire acquérir. D'accord? Makne, dans Makne, on a le mot Kinyan. Davar, c'est quoi Davar? Une chose. Shelo Ba. Shelo Ba. Qui n'est pas venu. Leolam. Dans le monde. Qui n'existe pas en
Mais là, pourquoi on parle de ça à cause de l'objet alors, que...
Pourquoi on parle de ça à... Alors deux secondes.
Non.
Il n'y a pas que les fruits. Il n'y a pas que les fruits. D'accord? Il n'y a pas que les fruits. Nous, on a compris. Pourquoi on parle de ça? Parce que nous, on a compris...
Les intérêts, non?
Rappelez-vous. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? On a expliqué que si maintenant, on reprend le cas avec Yaakov, qu'on a expliqué tout à l'heure. D'accord? Je donne un objet à garder à Yaakov. Voilà, je donne un objet. Je donne ici un sidour à garder à Yaakov. Yaakov prétend que le sidour est perdu. Mais que ce n'est pas de sa faute. D'accord? Yaakov va payer. Il va dire, tu sais quoi, je te paye ton sidour, je ne veux pas jurer. Pour un sidour, moi je te paye, ça va, combien ça coûte? 20 euros, je te paye 20 euros, laisse-moi tranquille. Il me paye 20 euros. D'accord? Ensuite, par la suite, on retrouve le voleur. Qu'est-ce qu'on a dit? À qui le voleur doit payer le kefel? À qui le voleur doit payer le double? À Yaakov. Pourquoi? Parce qu'on considère que moi, quand Yaakov m'a donné les 20 euros pour le livre, je lui ai donné non seulement le livre, mais je lui ai donné également l'éventuel kefel, l'éventuel double, que le voleur devra payer s'il se fait attraper. Ça veut dire que j'ai offert à Yaakov non seulement le livre, la valeur du livre, mais j'offre dans ma tête également, je dis, si Yaakov, si un jour on retrouvera le voleur, c'est pas grave, le voleur il payera à Yaakov. Ça veut dire que j'ai vendu à Yaakov un kefel éventuel, donc un double éventuel, un knas éventuel, qui n'existe pas. On est d'accord? C'est-à-dire que dans ma tête, j'ai fait une transaction, j'ai dit, bon, Yaakov il va me payer 20 euros, mais peut-être qu'on va retrouver le voleur, d'accord? Peut-être qu'on va retrouver le voleur. Oui, mais c'est pas grave. Je me dis, je donne quand même, même si le voleur en trouvera dans 20 jours, je donne dès maintenant ce que le voleur devra payer. Attends. C'est-à-dire quoi ce que maintenant le voleur devra payer? Mais deux secondes. Mais le voleur, on l'a pas trouvé encore. Le voleur, on l'a pas trouvé encore. D'accord? Peut-être que le voleur va avouer soi-même. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de kefel. Je veux dire, le kefel n'existe pas. Alors, regardez comment la Gemara va développer.
C'est un simple... Là, dans ce cas-là, c'est juste Yaakov qui veut acheter pour se débarrasser de...
Très bien. Mais nous, le problème qu'il y a, c'est que si, quelques jours plus tard, on retrouve le voleur, d'accord, on va dire que moi, j'ai donné à Yaakov non seulement le droit de ne pas jurer, d'accord, il a acheté le droit de ne pas jurer avec l'ustensile, mais en payant les 20 euros, mais je dis également que j'ai donné à Yaakov, à part ça, le kefel éventuel, on est d'accord? Le kefel, c'est le double. Je l'ai donné, c'est-à-dire, j'ai dit, bon, si on trouve le voleur...
Non, le premier cas, c'est la conscience.
Alors, justement... A priori, donc dans les mots de la Gemara, vous allez voir, on va développer Matkifla, Rami Bachama. Rami Bachama a posé la question. Donc Rami Bachama, il a posé la question sur ce qu'a dit la Mishnah. Il a dit, Veha, voilà, a priori, En Adam Makne, Davar, Shelo Ba Leolam. En Adam Makne, Davar, Shelo Ba Leolam. C'est-à-dire, on ne peut pas faire, comment il traduit Makne ici? Faire acquérir? Je sais pas comment.
Transmettre.
Bon. Makne, il y a Kinyan quand même. Hein. Bon. On ne peut pas transmettre, on ne peut pas. On ne peut pas transmettre, d'accord, d'avoir chez le Baléolam une chose qui n'existe pas.
Mais pourquoi ça n'existe pas? Ça existe.
Non, parce que le voleur, on ne l'a pas encore trouvé.
Oui, mais la chose, elle existe.
Très bien. Mais la chose, regarde. Encore une fois, je reprends mon cas. Je te donne un sidour à garder.
Oui.
D'accord? Tu me gardes le sidour. Tu prétends que le sidour a été volé.
Oui.
D'accord? Je lui dis, ok, il est volé, pas de problème. Tu me jures qu'il a été volé. Il dit, non, je ne jure pas, je te paye 20 euros. Mm-hmm. Pourquoi tu me payes 20 euros?
Je sais que c'est qu'il a volé.
Deux secondes, ça donne. Pourquoi tu me payes 20 euros?
Je veux pas jurer.
Donc le sidour n'est pas là. Parce que tu n'as pas envie de jurer. D'accord? Donc quand tu as payé 20 euros, d'accord, tu as acheté le droit de ne pas jurer.
De ne pas jurer, d'avoir le double s'il y avait.
Seconde. Non, mais ça, maintenant, la question qui se passe, c'est plus tard, on retrouve le voleur. Voilà, les personnes ici, on retrouve le voleur. D'accord? Moi, je peux te dire que, Yaakov, je t'ai seulement donné le droit de ne pas jurer. Donc tu m'as payé 20 euros, je te rends tes 20 euros, je reprends mon ustensile, et le voleur, il me paye à moi le double.
C'est pas la halakha.
Pourquoi c'est pas la halakha? Puisqu'on part de la base, puisque lorsque tu m'as payé 20 euros, d'accord, je t'ai donné les droits sur l'ustensile, et je t'ai donné également le droit, d'accord, sur le kefel qui m'appartient. Pourquoi ? Alors, je vais reprendre l'exemple que j'ai dit la semaine dernière. C'est très important à comprendre cet exemple-là. 1er avril, tu te fais voler. D'accord ? C'est pas le poisson d'avril. 1er avril, tu te fais voler.
Le 2 avril.
Non, ok. Le 2 avril, tu te fais voler.
Moi,
je suis né le 2 avril. Bon. 2 avril, tu te fais voler. D'accord ? 5 avril, tu te rends compte que tu t'es fait voler. On est d'accord ?
Oui.
Très bien. 15 avril, donc 5 avril, tu te rends compte que tu t'es volé. Et donc, tu viens me voir. Et moi, je te dis, dans ce cas-là, soit tu jures, soit tu payes. Tu me payes. On est d'accord ? 5 avril, tu me payes. 15 avril, on retrouve le voleur. D'accord ? Donc, rappelez-vous, à quelle date tu as été volé ?
Le 5.
1er avril.
Oui, le 1er avril.
Le 5 avril, tu te rends compte, et le 5 avril, on s'arrange à l'amiable, tu me payes et c'est tout.
Entre temps, t'as fait l'anniversaire de la vie. Hein,
70 euros.
Très bien.
On va faire un petit lourd, ça se trouve, c'est pas
sûr. On est d'accord ?
Oui.
Très bien. Maintenant, je te pose la question. Rappelle-toi, la date du vol, quelle date ?
1er avril.
1er avril.
Le 2, il est offert à Mendy.
D'accord ? Tu m'entends ? Non. 1er avril, la date du vol. Donc, à la date du vol, lorsque le voleur a volé cette chose-là, à qui il appartenait l'ustensile ? À toi ou à moi ?
À toi.
En date du 1er avril, il appartenait à moi. Donc en date du 1er avril, le voleur, lorsqu'il a volé quelque chose, ben, quelque part, il doit déjà un kefel, si je fais attraper. Donc le kefel, à ce moment-là, il appartient à qui ?
À
moi. Très bien. Le 5 avril, tu viens, je te dis, ok, dans ce cas-là, tu jures. Tu dis, non, je jure pas, je te paye.
C'est à moi, ça appartient.
D'accord ? C'est à moi que ça m'appartient. Qu'est-ce que tu m'as payé ici ? Tu m'as payé 20 euros.
20 euros plus ?
Non, tu m'as payé 20 euros. Donc on peut dire... Deux choses. Je peux dire que tu m'as acheté le droit de ne pas jurer. Mais moi, maintenant, c'est pas 20 euros qui m'appartiennent, c'est 40 euros qui m'appartiennent. Parce qu'il y a 20 euros de mon ustensile, plus les 20 euros que le voleur devrait rembourser. Si
non, si tu as accepté les 20 euros au départ.
Ah, voilà.
Il faut pas exagérer. Tu peux pas avoir le beurre, l'argent.
Le beurre, l'argent du beurre. Très bien. Donc, mais ça veut dire quoi hein? D'accord, ça veut dire quoi
hein? Tu peux pas jouer sur deux tableaux.
Ça veut dire que, on part de la base, explique la Gemara, on part de la base de quoi? Que le 5 avril, lorsque j'ai accepté les 20 euros de Yaakov, en contrepartie, qu'est-ce que je lui ai donné ? Je lui ai donné tout d'abord l'objet qui vaut 20 euros, et je lui ai donné également les droits sur l'éventuel kefel que le voleur payera. L'éventuel kefel que le voleur payera. L'éventuel kefel que le voleur payera. Éventuel, mais il n'est pas là le kefel encore. Tu ne peux pas vendre ni donner quelque chose, même donner.
Ça, c'est un accord.
Deux secondes. Tu ne peux pas donner quelque chose qui n'existe pas. Le voleur, est-ce que, bien sûr que le voleur existe, mais est-ce qu'on est sûr que le voleur devra payer le double ? Pas forcément, regardez ce que veut dire la Gemara. D'accord ? Va fil ou le Rabbi Meir d'Adamar, Adam Matlé, d'avoir chez le Balaolam. Et même selon Rabbi Meir qui a dit dans le traité Ivamot, qui a dit qu'un homme peut transmettre quelque chose qui n'existe pas encore, Anemile, dans quel cas Rabbi Meir a dit ça ? Perod d'Ekel, d'un vidé d'Atou. Dans quel cas Rabbi Meir a dit ça ? Rabbi Meir a dit ça seulement dans le cas des fruits du palmier. Que les fruits du palmier, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, que d'avidé, d'atout, on a l'habitude que ça vient. C'est-à-dire, on sait que ça va venir. Même s'ils ne sont pas encore venus, on sait qu'ils vont venir. Et c'est sur ça que Rabbi Meir était en marloquette avec Rachamim. Que Rachamim m'ont dit que tant que l'objet n'est pas là, la transaction ne peut pas être faite. Rabbi Meir a dit non, même si l'objet n'est pas là, mais puisque l'objet est là dans ma pensée, je le vois arriver, et que statistiquement, je sais qu'un arbre, normalement, donne des fruits, et que cet arbre a donné des fruits. Donc là, dans ce cas-là, on peut dire que je peux, dans ce cas-là, Rabbi Meir a dit que je peux transmettre quelque chose, même en cadeau, quelque chose qui n'existe pas encore. Pourquoi ? Puisque même s'il n'existe pas encore dans les faits, mais c'est pas fictif. On sait que cet arbre, il donne des fruits chaque année. Et bon, il peut avoir une catastrophe naturelle, mais normalement, il n'y a pas de catastrophe naturelle. Normalement, l'arbre, il donne des fruits. Donc c'est pour ça que Rabbi Meir a dit que dans ce cas-là, je peux transmettre tout ce qui n'existe pas.
Il veut donner ou il veut vendre.
D'accord ? Peu importe. Donner ou vendre. Parce que dans les deux cas, il faut un kinyan. Il faut transmettre les choses. Il faut un mode d'acquisition. D'accord ? Aval acha, mais dans le cas d'ici, miyemar de migneva. D'abord premier, la Gemara, alors là c'est intéressant que la Gemara va faire, on a bien tourné la page. C'est une pure logique Gemara. D'accord. Aval acha, mais ici. Miyemar de Migneva. Allez, on tourne la page. Premièrement, qui te dit que l'objet a été volé ? Yaakov, il prétend que l'objet a été volé. Mais qui te dit que l'objet a été volé ? Est-ce que tu es sûr que l'objet a été volé ?
Tu peux penser que non.
Est-ce que tu es sûr que l'objet a été volé ? Peut-être oui, peut-être non. D'accord.
Peut-être
qu'il l'a perdu.
Qu'il se l'est racheté.
Peut-être que c'est un de tes enfants qui l'a pris, t'es pas rendu compte, tu vas le retrouver deux jours plus tard. Tu vas le retrouver dans un endroit incongru.
Ou si je voulais l'objet, tout simplement.
Sans dire incongru.
Ou si je voulais l'objet. Non, si je le voulais.
Non, tu peux pas.
Oui, c'est pour ça que tu dois jurer.
Ah, voilà.
Oui, mais non, je ne veux pas jurer, je te paye.
Non, on a expliqué tout à l'heure que dans tous les cas, tu dois au moins jurer une chose.
Exactement.
De jurer que l'objet ne se trouve pas dans ta possession.
Donc tu ne pourras pas le voler.
Tu ne peux pas le voler. T'es bloqué. À un moment, tu vas faire deux serments et toi, tu veux éviter, tu vas faire un seul.
Et si, par exemple, je sais qu'il a volé.
Attends, on va développer la suite de la Gemara. D'accord ? Yaakov, est-ce que tu es sûr que l'objet a été volé ?
I don't know.
Non. Tu supposes que l'objet a été volé.
Je suis pute.
D'accord ? Mais l'objet, t'es pas sûr qu'il a été volé. Peut-être qu'il a été perdu. The intitulema de Migneva. Et même si tu dis qu'il a été volé. Miyema de Mishtakar Ganav. Qui te dit qu'on va trouver le voleur ? Ça c'est pour montrer comment. Alors vous allez voir comment la Gemara va expliquer, que c'est pour montrer que notre cas n'est pas comme le cas du palmier. Que même dans le cas des fruits du palmier qui ne sont pas encore là, qu'il y avait une marque entre Rabbi Meir et Rami, mais que Rabbi Meir a dit que c'est bon, Rabbi Meir a dit ça seulement parce que dans les fruits du palmier, on sait que normalement les fruits du palmier vont arriver. C'est normal. Mais là, dans ce cas-là, on n'a aucune certitude, comme la Gemara va expliquer, on n'a aucune certitude que le kefel, que ce fameux kefel, que ce fameux double, que ce fameux, donc ce fameux knas, va être payé. Pourquoi ? Premièrement, qui te dit que l'objet a été volé ?
Deux secondes, David.
Premièrement, qui te dit que l'objet a été volé ?
Je l'ai perdu.
D'accord ? Toi, tu l'as perdu. Deuxièmement, même si l'objet a été volé, qui te dit qu'on va trouver le voleur ?
D'accord ? Il a pris le bateau, il a traversé l'Atlantique.
Très bien. Normalement, si c'est un bon voleur, je ne le retrouve pas. Ve imishtakar ganav, troisièmement, même si on trouve le voleur, miyemar de meshalem, qui te dit qu'il va payer le double, ce fameux kefel, dilma modo ou miftar, peut-être qu'il va avouer, d'accord, et dans ce cas-là, s'il va avouer, un voleur qui avoue, il paye combien ?
La valeur.
Il paye la valeur, il ne paye pas le double. Donc, vous avez vu comment je suis descendu de trois niveaux ? Trois hypothèses, comment ça s'appelle ça dans les statistiques ? Hein ?
Hypothèses. Ce sont des cas.
Non, c'est pas des cas. Donc combien de chances j'ai d'arriver à ce kefel ?
L'hypothèse.
Allez, d'accord.
Une sur trois.
Ah non, c'est pas une sur trois.
Une sur six.
Une sur neuf.
Combien de chances j'ai d'arriver à cet objet ?
Je sais
pas. Le kefel. Alors, vous qui avez fait l'école.
Comment ça, combien de chances ?
T'as pratiquement aucune chance.
Tu veux pas calculer comme ça ?
Vraiment, madame Daniel. Hein, monsieur Daniel ?
On n'a jamais le droit.
Même sur toi.
Hein ? D'abord, je sais pas s'il a été volé ou pas. Donc j'ai une chance sur deux. D'accord ? Ensuite, même s'il a été volé, oui, je sais pas, donc là, c'est-à-dire là, je suis déjà à 50-50, on est d'accord ?
50%. Une sur deux.
On est d'accord ? Donc là, je suis à 50%. Ensuite, même si tu dis qu'il a été volé, qui te dit qu'on va trouver le voleur ? Donc là, je suis déjà à 25%. Parce que même si tu dis qu'on l'a volé, t'es encore, c'est 25%. Bon. Ensuite, même si on va trouver le voleur, d'accord, qui te dit que le voleur ne va pas avouer, dans ce cas-là, il ne devrait pas payer ? Donc là, je suis passé à 12,5. C'est-à-dire qu'on a 12,5% de chance. C'est bien, c'est très très loin des fruits du palmier. Les fruits du palmier, d'après vous, on va estimer combien de chances on a que le fruit du palmier, que le palmier va donner ses fruits.
9 sur 10.
9 sur 10, c'est encore gentil, 9 sur 10. C'est sûr que ça va donner. Normalement, le palmier donne ses fruits. Donc dans ce cas-là, même Rabbi Meir sera d'accord, que même si David est en train de nous dire, oui, mais on s'est arrangé. Mais tu ne peux pas t'arranger. Pourquoi tu ne peux pas t'arranger ? Tu ne peux pas t'arranger parce que tu ne peux pas t'arranger sur quelque chose qui n'existe pas.
Bon, tu t'arranges quand même.
Et ça, c'est un principe, je ne sais pas si on retrouve ce principe-là dans la loi civile.
Ah, mais il y a quelque chose qui existe.
Il y a un principe, alors c'est pour ça que je vous dis. C'est un principe, à mon avis, qui est unique dans la Torah, c'est le concept du Kinyan. C'est extraordinaire ce concept du Kinyan. Le concept du Kinyan, seconde, c'est quoi le concept du Kinyan ? Le concept du Kinyan, c'est un concept qui dit que même si on s'est engagé sur quelque chose, s'il n'y a pas eu d'acquisition, ça vaut rien.
Il y a eu une acquisition.
Ça veut dire, imagine-toi que je m'engage envers quelqu'un, je lui dis je te vends l'objet.
Mais au départ, à partir du moment
écoute.
Je te demande de me garder mon sidour.
David,
tu t'engages au départ.
Dans le cours de Gemara, il faut attendre les pauses.
Des questions.
D'accord.
Excuse-moi, mais c'est pas la visite.
Non, c'est pour ça que je dis, c'est pas de problème. Alors, regardez. Imaginez-vous que je rentre dans un magasin et je vois un objet qui m'intéresse. D'accord. Je demande au vendeur, je dis est-ce que vous pouvez me le réserver, s'il vous plaît. Il dit oui, monsieur, il est pour vous. Vous l'avez acheté, faites comme si qu'il l'a acheté. Il y a un autre client qui vient, d'accord, et le vendeur lui vend. Est-ce que je peux attaquer en justice le vendeur ? Non, le vendeur s'est engagé devant des témoins. Hein. Il y avait des gens qui étaient là autour. Je pense que dans la loi civile, on peut. s'il y avait des témoins autour qui témoignent que tu as dit que l'objet est vendu déjà.
En Amérique, sûrement, mais en France.
Je pense qu'il y a un début, en tout cas, il y a un début de procédure. Tu peux démarrer une procédure. Dans la Torah, ça vaut rien. Tant qu'il n'y a pas eu de mode d'acquisition, c'est-à-dire soit par un contrat, on a signé quelque chose, je t'ai signé un chèque par exemple, soit par l'argent, je t'ai payé la chose, soit par la chazaka, c'est-à-dire que j'ai déplacé l'objet, j'ai bougé l'objet, d'accord ? Soit comme a dit Yaakov, par khalifin. C'est quoi khalifin ? C'est qu'on a échangé, mais bon, là, dans le cas du magasin, il n'y a pas ça. Tant qu'il n'y a pas un de ces modes d'acquisition, la parole vaut rien. Ça vaut rien, c'est comme si j'ai rien dit. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire attention à sa parole, mais ça veut dire que la transaction n'a pas démarré. On considère que c'était une parole, que bon, les gens parlent beaucoup, mais c'est la transaction n'a pas démarré. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour qu'une transaction démarre, il faut que la transaction, d'accord, se transmette sur un objet, comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Il faut qu'elle se transmette sur un objet. Et même selon Rabbi Meir qui dit qu'il ne faut pas forcément que l'objet soit là, mais il faut que dans notre pensée, on ait à pratiquement 90% de chances que l'objet va arriver, comme le cas du palmier. Dans notre cas, combien de chances est arrivé ? 12,5. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ?
Oui, donc 12,5. Quand on calcule la probabilité, bon,
d'accord. Ça. Non, c'est pas la probabilité. C'est pas des probabilités que j'ai fait ici. Probabilité, t'en as beaucoup plus. D'accord.
Si par exemple le voleur il reste dans la région ou le voleur il traverse la mer, c'est pas le même nombre de chances.
Très bien. Nous dans notre truc.
C'est pour ça que
c'est une chance sur 8.
Pour dire qu'il y a pas beaucoup, il y a moins de chances.
Voilà. C'est une chance sur 8. On est d'accord. 12,5, ça veut dire une chance sur 8. J'ai une chance sur 8 de le retrouver.
C'est incalculable, mais
d'accord. Non, mais sûr qu'après. Après, dans ces probabilités, pourquoi c'est pas... Après, dans les probabilités, aujourd'hui, on va faire des nuances. Ouais. C'est-à-dire, on va dire peut-être que ça va être plus facile ou moins facile, etc. Très bien.
Mais il y a moins de chances que le palmier, d'accord. Ça, tu veux dire.
Il y a beaucoup moins... Il y a au moins une chance sur 8. Voilà, au moins. On est d'accord. Donc, dans ce cas-là, la Gemara pose la question. Elle dit comment... Puisque au 1er avril, je me suis fait voler l'objet, et qu'à ce moment-là, le kefel éventuel m'appartenait, c'est vrai... Comment au 5 avril je peux venir et je dis je donne à Yaakov ce kefel. Le kefel, c'est quoi le kefel, David ?
Ça c'est le voleur qu'on n'a pas encore retrouvé.
Donc le kefel c'est le double que le voleur devait en payer. Le kefel n'existe pas encore. Le voleur, c'est vrai que le voleur existe. Mais on a expliqué comment on est descendu de 3 niveaux, donc on est arrivé à une chance sur 8.
Le voleur n'existe pas, on ne sait pas s'il a été volé. Lui.
Très bien.
Donc, bonne question. Il n'existe pas.
Donc même le voleur, on n'est pas sûr qu'il existe. Donc ça veut dire que c'est du fictif tout ça. Vous prenez la question de la Gemara ? Bon. Alors, donc, pour répondre à la question de la Gemara, on va devoir expliquer qu'en vérité, il y a plusieurs manières comment on va répondre à la question de la Gemara. Nous, notre problème ici, c'est quoi ? Notre problème, c'est que cette transaction entre Yaakov et moi se fait le 5 avril. Et le 5 avril, le larcin a déjà été commis. On est d'accord ? Donc le problème, c'est qu'on est dans une situation un peu délicate, parce que d'un côté, le larcin a déjà été commis, donc il y a un voleur éventuel qui me doit déjà quelque chose à moi, Mendy Assouline. Mais d'un autre côté... Le voleur, on n'est pas sûr de le retrouver. Très bien. Donc c'est un problème. Une des solutions possibles que la Gemara va donner, c'est qu'on va essayer de dire que, en vérité, l'engagement qu'on avait, que Yaakov avait envers moi, d'accord, c'est quoi ? C'est l'engagement n'était pas ni au 1er avril, ni au 5 avril, ni au 15 avril, mais l'engagement était déjà au 1er mars. 1er mars, date à laquelle j'ai donné l'objet à garder.
1er avril.
Non, 1er mars. Vous allez voir ce que la Gemara va dire.
Qu'il
y a quelque chose apparemment qui va se passer à ce moment-là, qui va faire que je vais faire comprendre, et je vais dire, enfin, soit je vais faire comprendre, soit je vais dire à Yaakov, que si un jour arrive quelque chose, etc., comme la Gemara va expliquer, si un jour tu te fais voler et que tu me payes, etc., je considère que l'objet t'appartiendra rétroactivement depuis le 1er mars. Donc puisque le 1er mars, puisque l'objet t'appartient rétroactivement depuis le 1er mars, donc en date du 1er avril, lorsque tu as été volé, en vérité c'est pas moi qui ai été volé, mais c'est toi qui as été volé.
Pourquoi 1er mars ? J'ai pas...
1er mars, c'est la date à laquelle j'ai donné à Yaakov à garder l'objet.
C'est du 1er avril tout à l'heure, non ?
Non. 1er avril, c'est la date du larcin. La date du vol.
Ah bon ?
Oui, c'est ça. Une question. Yaakov, il a le droit d'acheter ou de ne pas acheter non plus.
Très bien.
Donc on ne peut pas dire...
Si, dans le cas où je voudrais acheter...
Non, mais il y a une éventualité.
Mais même si Yaakov a
acheté...
Dans
l'éventualité,
oui. Donc là, on ne peut pas dire que quand tu l'as pris pour le garder... forcément que tu allais l'acheter et que...
Très bien. Non, on n'a pas expliqué.
Avec d'ici, on mettrait pareil en
bouteille. On n'a pas encore.
Avec d'ici, là. Si jamais on t'avait volé, tu voulais le payer...
Il y a deux hypothèses. Vous parlez sur la réponse, Dagmara. Sur la réponse. Rétroactive. On n'a pas encore expliqué dans les mots. D'accord. Donc, est-ce que vous avez compris notre problème ? C'est quoi notre problème ? Le problème qu'on a ici, c'est comment je peux transmettre quelque chose qui n'existe pas. Alors c'est intéressant, parce que j'ai lu une analyse, Bashgara Pratit, j'ai lu cette analyse la vendredi, une analyse du Rav Zalman Ramia Goldberg, qui était donc aujourd'hui, bon il est à la retraite, mais qui était Dayan, qui était le Dayan principal du Bedin de Jérusalem. D'accord ? Et j'ai lu une analyse intéressante qui fait, sur cette Gemara, Bashgara Pratit, dans un sujet aucun rapport que je suis en train de lire, j'ai lu une analyse intéressante qui fait sur cette Gemara, pour expliquer la machloquette qu'il y a entre Rabbi Meir et Chachamim. C'est quoi la marloquette Rabbi Meir et Chachamim ? La marloquette Rabbi Meir et Chachamim, c'est sur le cas du palmier, les fruits du palmier. Est-ce que je peux vendre les fruits du palmier ? Et il explique la chose suivante, c'est très intéressant comment il explique. Il dit que dans la majorité des marloquettes de la Gemara, d'accord, c'est en réponse à notre Rav qui écrit, enfin il y a tout un sujet, mais moi je ne vais pas rentrer dedans, il explique que dans la majorité des marloquettes de la Gemara, c'est des marloquettes de ce style. C'est de quoi de ce style ? C'est des marloquettes dans lesquelles finalement Rabbi Meir et Chachamim ne sont pas en marloquette. Puisque les deux sont d'accord, les deux partent de la base, qu'on ne peut pas vendre quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi ici Rabbi Meir et Chachamim vont être en marloquette ? Ils vont être en marloquette où on doit poser la limite. Ça veut dire à partir de quel moment on considère que l'objet existe ? Est-ce qu'on considère que l'objet existe dès qu'il existe physiquement ? Ou est-ce qu'on considère que l'objet existe dès qu'on est persuadé qu'il va arriver ?
Voilà. Une forte probabilité qui
d'accord, une forte probabilité qu'il va arriver. Et il explique que dans la majorité des marloquettes de la Gemara, d'accord, on peut découper les marloquettes. À mon avis, c'est un principe qui est très important à comprendre avant de faire la Gemara. La majorité des marloquettes de la Gemara peuvent, on peut les répartir en deux catégories. Soit une première catégorie de marloquettes, c'est quand on ne connaît pas la réalité. Par exemple, on sait qu'il y a un rave un jour qui a dit quelque chose, mais on ne sait pas exactement ce qu'il a dit. Donc on va avoir une marloquette. On va essayer d'analyser ce qu'il voulait dire. Ça va arriver par exemple avec la Mishnah. La Mishnah nous a dit quelque chose, mais la Mishnah était ambiguë. D'accord ? N'était pas claire dès le début. Donc on va avoir une marloquette pour essayer de comprendre ce que la Mishnah voulait dire. On est d'accord ? Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ?
Là, je pense à un cours que j'ai entendu hier de Chetrit, et il parle d'un cas de la Gemara, il dit « Là, c'est plus ambigu, c'est bigu. »
C'est
ça, la Rabbi Yoshua, quand il va voir la prostituée, tu sais.
Ah oui, d'accord. Bon.
Là, c'est plus ambigu, alors, c'est bigu. Là.
C'est bigu, là. Donc, première catégorie de marloquet qu'on a dans la Gemara, c'est quoi ? À mon avis, c'est important à comprendre ça. C'est quoi ? C'est des cas où à la base, et ça on l'a très souvent, d'accord ? Dans lequel tu as un texte qui n'est pas clair. Et on va venir par derrière pour essayer de le comprendre. Donc naturellement, puisque le texte n'est pas clair, eh ben, on peut le comprendre d'un côté comme on peut le comprendre d'un autre. Des fois tu peux avoir 10 analyses sur le texte. Et 10 conclusions. Très bien. Mais il y a beaucoup d'autres marloquettes, dont notre marloquette, qui sont des marloquettes sur l'analyse. Ce ne sont pas des marloquettes sur qu'est-ce que la Mishnah voulait dire. C'est une marloquette sur une réalité. La Mishnah voulait dire une seule chose. D'accord ? Qu'est-ce que la Mishnah voulait dire ? Ben, puisque la Mishnah n'est pas là, donc on va essayer de comprendre ce qu'elle voulait dire. Mais il y a une grande partie des marloquettes de la Gemara, dont notre marloquette d'ici, la marloquette de Rabbi Meir Chachamim, qui ne sont pas des marloquettes sur qu'est-ce que la Mishnah voulait dire. C'est une marloquette dans la logique. C'est quoi notre marloquette ? On a un principe apparemment sur lequel Rabbi Meir et Chachamim sont d'accord. Ils sont d'accord sur le principe que je ne peux pas vendre quelque chose de fictif. On est d'accord ? Et que si réellement j'ai vendu quelque chose de fictif, la vente est caduque. Très bien. Mais là, la marloquette qui est entre Rabbi Meir et Chachamim va être à savoir à partir de quel moment on considère que l'objet est réel. Est-ce que c'est lorsqu'il existe réellement, qu'il est là réellement ? Ou est-ce que c'est lorsque on pense que l'objet va arriver, on est persuadé que l'objet va arriver. On sait que Rabbi Meir était quelqu'un qui était très profond, et que les Chachamim avaient beaucoup de mal à arriver au fond de ses pensées. Parce que Rabbi Meir voyait le fond des choses. Et on le voit tout de suite dans cette marloquette. Comme Rabbi Meir a dit que pour lui, un objet est considéré réel lorsqu'on est persuadé qu'il va arriver, bien qu'il n'est pas là. C'est-à-dire que Rabbi Meir, bien que l'objet n'est pas là, il le voit déjà dans sa tête.
Après, ça dépend qui tu es.
D'accord ?
Qui tu es en face de
toi. C'est bon ? La Rabbi Meir voit déjà l'objet dans sa tête. Mais c'est-à-dire que finalement, en vérité, il n'y a pas vraiment de marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Finalement, sur la base, ils sont d'accord les deux, on est d'accord ? Ils sont d'accord qu'on ne peut pas vendre quelque chose de fictif. Leur marloquette, exactement, la manière comme le Rav Nechama Goldberg explique, il dit que c'est une question de limite. C'est où on doit poser la limite entre le fictif et le réel.
C'est notre intellect qui le sait.
D'accord ?
C'est
bien. Très important à comprendre ça. À mon avis, c'est très important à comprendre ce principe-là. C'est quelque chose qu'il faut se le rappeler constamment quand on étudie des marloquettes dans la Gemara. Je pense...
C'est une question de probabilité.
Non mais, encore une fois, oui, c'est bien sûr.
Là,
ça va se traduire dans une question de probabilité.
Ah, c'est ça.
Mais je pense que c'est très important à comprendre ça avant de faire de la Gemara. Il faut se le rappeler constamment. Il faut se le rappeler constamment qu'il y a deux catégories de marloquettes dans la Gemara. Première marloquette, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été dit. Bon, là, dans ce cas-là, bien sûr, on dira que Elou va Elou divrait le Kimchaï, mais que certainement que la Mishnah voulait dire les deux et qu'elle a donné la place aux deux. Bon. D'accord, parce que peut-être que la Mishnah voulait parler pour ceux qui sont plutôt Chesed, ceux qui sont plutôt Gvura, mais bon, ça c'est. On a expliqué dans l'introduction du Tania, je ne vais pas développer. Mais on a aussi une deuxième catégorie de marloquettes qui, à mon avis, est plus fréquente. C'est une marloquette dans laquelle on ne va pas essayer de comprendre ce qu'un tel ou un tel a dit, mais c'est une marloquette dans laquelle on va essayer de savoir où on pose les limites. Un exemple qui me passe par la tête, d'accord, qui me passe par l'esprit tout de suite, c'est quoi? L'exemple qu'on a donné juste à la fin de la Gemara, Elou Metziot. On a donné un exemple, c'est quoi l'exemple qu'on a dit? On a donné un exemple, on a dit qu'on a l'obligation de faire passer la perte de son maître, d'accord, avant la perte de son père. Et là-bas, la Gemara a essayé de rentrer, d'expliquer, de dire qu'est-ce qu'on considère comme un maître. On avait différents avis. Il y en a qui a dit un maître, celui qui t'a appris le métier. D'accord? Enfin, celui qui t'a appris, pardon, à comprendre au travers de son métier, à comprendre la Torah. T'as un autre qui t'a dit que le maître, c'est celui qui t'a appris la majorité de ta sagesse. T'as un autre qui t'a dit que le maître, c'est celui qui t'a appris à réfléchir. Et nous, les élèves qui sommes là, on dit, mais attends, décidez-vous. Mais finalement, quand on analyse ce qu'ils ont dit, on voit que finalement, ils n'ont pas réellement de marloquette. Parce que tout le monde est d'accord que c'est quoi la notion d'un maître? C'est celui qui m'a appris quelque chose. Mais ce qu'on essaye de voir, c'est où est la limite. À partir de quel moment je considère qu'il m'a appris quelque chose.
Ça, c'est la base de la Torah.
C'est d'accord.
C'est savoir. C'est notre sens.
C'est à partir de quel moment on considère qu'il m'a appris quelque chose.
Tu dis bêtement.
Et c'est ça la marloquette. Bien sûr. Il a raison. C'est quand on dit que la Gemara forme l'esprit, c'est surtout sur cette deuxième catégorie de marloquette. Parce que bon, quand tu as deux rachamim qui se disputent sans marloquette, qu'est-ce qu'un tel a dit? Bon, on n'est pas là, on ne peut pas savoir ce qu'un tel a dit. Et ça, c'est une marloquette dans laquelle on va essayer. C'est intéressant, je vais rapprocher, je pense à ça, parce qu'il a amené cet exemple-là, le Rav Goldberg. Bon, donc on revient à notre question.
Nous sommes des bergers.
D'accord. On revient à notre question. C'est quoi notre question? D'accord. Notre question, c'est qu'a priori, en date du 1er avril, Yaakov, il pense qu'il s'est fait voler le 1er avril. Le 5 avril, Yaakov m'a payé. Mais a priori, en date du 1er avril, le Kefel appartenait à qui?
À toi.
À moi. Puisque à ce moment-là, l'objet appartient toujours à moi. Donc comment, quand Yaakov m'a payé 20 euros le 5 avril, je peux dire que j'ai donné à Yaakov non seulement les droits sur l'objet, mais j'ai donné à Yaakov également les droits sur le kefel éventuel que le voleur me doit depuis la date du 1er avril. Très bien. Donc la seule possibilité a priori qu'on a pour l'instant, c'est d'expliquer qu'en vérité, je vais donner à Yaakov les droits sur l'objet rétroactivement depuis le 1er mars.
C'est Gnaï alors.
Donc dans ce cas-là, le 1er avril, lorsque Yaakov a été volé, d'accord, l'objet appartenait à qui? À Yaakov ou à moi? Si tu dis que rétroactivement il t'appartenait, donc ça veut dire que rétroactivement l'objet m'appartenait. Alors je sais que M. Denis a une question, donc on va voir tout le mot de la Gemara.
Pourquoi il y a le deux cas?
Donc, il
y a deux hypothèses.
Donc la question va être maintenant.
Personne n'avait mis son date sur l'éventualité que.
Personne n'a dit qu'il a mis son date encore, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on va devoir se référer au 1er mars. Non, j'ai pas dit ce qui s'est passé le 1er mars. Parce que la majorité des gens, lorsqu'ils donnent quelque chose à garder à quelqu'un, ils lui disent pas, écoute. C'est le 1er mars, je dis, ouais, mais si le 1er avril tu te fais voler, et que le 5 mars tu te rends compte, et quand ça... Personne ne réfléchit à ça.
Voilà.
D'accord?
Donc, bon. Il y a deux éventualités.
Il n'y a pas deux éventualités, il y a zéro éventualité. Mais on pense pas à ça quand on prête, sinon on deviendrait fou. On va devoir faire ce qu'on appelle, dans la Gemara...
Ça peut faire l'objet d'une règle, c'est-à-dire dès qu'on le donne...
Il faut expliquer la règle.
Et ben, il y a deux éventualités. Alors, attention. Soit il va racheter si...
On va faire ce qu'on appelle...
Alors, ou sinon tu vas jurer. Non,
on va faire ce que la Gemara appelle un narassé. C'est quoi un narassé? Ça veut dire qu'on va faire comme si quelque chose s'est passé. Ça veut dire quoi? Que même si dans une transaction il y a des choses qui ne sont pas dites. D'accord?
Ouais, c'est une règle.
C'est bien compliqué, hein. Je te donne un exemple.
30 secondes dans le père, là, il dort.
Imagine-toi. Imagine-toi. Imagine-toi, David, qu'un client il vient chez toi.
On connaît la règle.
D'accord. Imagine-toi qu'un client il vient chez toi.
Tu veux que je donne mon cas?
Non. Imagine-toi qu'un client il vient chez toi. Et il achète un plat. D'accord. Alors dans ce plat, il y a du cumin.
Tu pourras m'avoir sur aucun cas.
Deux secondes. Écoute-moi mon cas. Imagine-toi que quelqu'un qui t'achète un plat. Dans ce plat, il y a du cumin. Mais lui, il ne le sait pas. Il est allergique au cumin.
Ouais.
D'accord. Il mange le plat.
Il devient malade.
Et il en devient malade. Il t'attaque en justice.
Grâce de Shalom.
Tu dis pourquoi vous m'avez pas dit. Non, mais non,
c'est arrivé,
je... Shalom. Seconde.
Non, mais
il vient te voir. Non, mais
pas
attends, non, attends, attends.
Parce que moi, tout ce qui.
Mais laisse-moi, mais laisse-moi finir.
Les épices qui sont introduites dans mes boulettes.
C'est attends,
cadeau.
Laisse-moi finir.
C'est-à-dire même le coumé que toi tu supportes.
Seconde.
Toi, tu supportes,
mais laisse-moi finir.
T'es arrivé.
D'accord. Il t'attaque en justice. Il dit, écoutez, moi j'ai acheté, j'étais chez David. Il m'a pas dit qu'il y avait du cumin dans la boulette.
Deux fois.
D'accord. Qu'est-ce qu'il va dire le Rav? Le Rav, il va dire le principe du naasé. Il va dire, écoutez, monsieur, lorsque vous rentrez dans un restaurant, d'accord. Même si vous n'avez pas demandé explicitement est-ce qu'il y a du cumin, vous prenez le risque, si vous ne posez pas de questions, bah ne vous attendez pas à des réponses. Deux secondes.
Ça
donc,
m'est arrivé déjà.
Donc, bien sûr, je suis sûr que c'est un... je donne cet exemple.
Mais c'est pour d'accord ça que je dis que c'est Kadosh, moi.
Donc, qu'est-ce que tu dis, monsieur? Tu dis, monsieur, si vous ne posez pas de questions, ne vous attendez pas à des réponses.
Il y a du cumin, je peux dire.
Donc, naasé, on va faire comme si, que quand le client est rentré au restaurant, il a posé la question... Il a dit, est-ce qu'il y a du cumin dans les boulettes? Et qu'on lui a répondu, oui, il y a du cumin dans les boulettes, et qu'il a dit, je mange quand même.
Je savais pas qu'elle sortait du congélateur.
C'est ce qu'on appelle un narassé. C'est quoi un narassé? Narassé, ça veut dire que on va faire comme si, d'accord? On va faire comme si qu'il y a un événement qui s'est passé. On va faire comme si qu'il y a un dialogue qui s'est passé, alors que le dialogue ne s'est pas passé.
Il aurait dû poser la question, ça veut dire?
Non.
Non.
Ça veut dire qu'on part de la base, que lorsque tu rentres au restaurant, c'est comme si que cette question a déjà été posée. Sinon, tu aurais dû la poser. Le fait que tu la poses pas, ça veut dire que la question est déjà posée.
On va faire comme si qu'il avait posé.
Oui. On va faire comme si qu'il est d'accord. Et qu'il est d'accord et qu'il n'a pas d'allergie. S'il avait une allergie, il aurait dû poser la question.
C'est comme d'où on sait ça. C'est comme ça.
Parce que c'est une règle de bonne entente. Que normalement, si tu as un problème, tu n'avais qu'à poser la question.
Il n'y a pas besoin de...
Tu sais que quand tu es dans un restaurant, c'est possible que le plat ait été cuisiné au cumin. Tu n'as pas posé la question.
Oui,
donc si tu n'as pas posé la question, on part de la base que ça ne te dérange pas. Donc si ça ne te dérange pas, bah, ça veut dire que c'est comme si tu as demandé et qu'on t'a répondu et que tu as dit que ça ne dérange pas. C'est la même chose. Sinon, tu n'avais qu'à poser la question. Le fait de ne pas poser la question est considéré dans la halakha, d'accord, dans un cas où il faudrait poser la question, le fait de ne pas poser la question est considéré comme si tu es d'accord. Sinon, tu n'avais qu'à poser la question.
Il est en tort.
Non, il n'est pas en tort, mais moi, je ne suis pas en tort.
Ça reste quand même ambigu.
D'accord.
Il ne peut pas se défendre sur ça.
Non, il ne peut pas se défendre.
Il est malade.
Bien sûr.
Il est malade.
Pour lui. Non. Bien sûr, si maintenant le restaurateur a mis dans son plat quelque chose que normalement un restaurateur ne met pas dans son plat.
Normal.
D'accord. Là, on dit, monsieur, quand je vais rentrer chez vous, je ne vais pas vous demander est-ce qu'il y a un rat qui est passé par là. Écoutez, moi, je vous fais confiance. Là, je suis d'accord. D'accord. Mais quand c'est quelque chose qui est aux normes...
Donc, c'est du sens moral, ça, en fait.
C'est, oui. C'est plus que du sens moral.
C'est un peu de la logique.
C'est du bon sens.
C'est du bon sens.
Bon. Alors maintenant, on va essayer d'appliquer ce bon sens plus au premier... Vrai. On va essayer d'appliquer ce bon sens au 1er mars. Ah, monsieur Daniel,
ouais.
Ça complique ou ça facilite les choses?
Non, ça va nous éclaircir.
Non, normalement. Si c'est du sens logique et du bon sens, ça fait que arranger.
Le 1er mars, alors, je remets mon livre.
Ah bah, Rava, écoutez, Rava, en général, il avait des réponses toujours extraordinaires. Ah, bah, enfin, tous les autres aussi, mais Rava, on est plus facilement impressionné. Ah bah, Rava dit, narassé, on fait comme si, qui Omerlo, comme si, qui lui dit, lire chez Tiganev, donc on fait comme si, qui lui dit au 1er mars, pas au 1er avril, ni au 5 avril, puisqu'au 1er avril, c'est la date du vol, le 5 avril, le vol a déjà été commis, donc c'est trop tard, tu peux plus acquérir, on peut plus vendre quelque chose qui n'existe pas. Narassé, qui Omerlo, on fait comme si, qui lui dit, lire chez Tiganev, vetirtse ou tchalmeni, que lorsque je prends un objet et je le donne à Yaakov, maintenant je sais ce qui se passe lorsque je donne un objet. Je sais très bien que lorsque je donne un objet à garder, bah forcément je transmets la responsabilité de l'objet à quelqu'un. On est d'accord? Donc forcément je sais qu'il y a des choses qui peuvent se passer.
Ouais, c'est un tout.
D'accord? Donc je sais qu'il y a des choses qui peuvent se passer et je sais qu'éventuellement c'est possible qu'il va se faire voler l'objet et qu'éventuellement Yaakov me payera à la place de juré. C'est un tout puisque c'est des réalités de la vie.
Une éventualité.
On est d'accord? Donc même si je n'ai pas dit verbalement et explicitement à Yaakov, j'ai pas dit si tu te fais voler un jour, alors je te dirai que depuis 1er mars, rétroactivement, ça t'appartient. Même si je ne l'ai pas dit. C'est comme si que j'ai dit Are parati knuya lecha me'archav. C'est comme si que j'ai dit à Yaakov, si tu te fais voler l'objet, eh ben l'objet ne t'appartiendra pas depuis le 1er mars, il t'appartiendra depuis le 1er avril, il t'appartiendra depuis le 1er mars. C'est des lois de la vie, des lois de bon sens.
Oui, mais...
D'accord,
je peux me permettre.
Qui disent... Seconde, je finis. D'accord, j'explique. Qui disent que... Il ne faut pas se baser seulement sur ce que la personne te dit. Il faut se baser également sur le bon sens, ça veut dire sur ce qui se fait normalement. Sur la réalité des choses. Et dans la réalité des choses, lorsque j'ai donné un objet à garder à Yaakov, je sais que c'est possible que cet objet va être volé. Et je sais que si l'objet va être volé, Yaakov aura deux options. Soit il me paye, soit il jure. Dans ce cas-là, puisque, même si je n'y pense pas, c'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles on n'y pense même pas. Même si je n'y pense pas, dans mon subconscient, je connais ces choses-là. Je suis au courant de ces choses-là. Qu'est-ce qu'il dit Rava ? À mon avis, c'est extraordinaire comme logique. Rava, il dit que dans ce cas-là, c'est considéré que depuis le 1er mars, tu t'es engagé envers Yaakov, que si on se fera voler, si tu te feras voler, eh ben c'est comme si qu'il y a une condition qui a été posée, que l'objet ne lui appartiendra, l'objet lui appartiendra non pas depuis le 1er avril, mais depuis le 1er mars. Et donc, en date du 1er avril, date du larcin, quand l'objet a été volé, à qui l'objet appartenait ? À Yaakov. Ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on va se baser sur la réalité de la vie, sur la réalité de la vie, et sur le subconscient d'une personne, pour déterminer des choses. Mais attention, on va se baser sur le bon sens. Ça, c'est extraordinaire.
Oui, mais le bon sens, si je peux me permettre, chez vous.
Ah. Maintenant, j'attends la question de David. David va dire, oui, mais le bon sens, on peut le tirer très très loin.
On peut le tirer très loin. Ça veut dire que Yaakov, comme il est malin au départ, il va dire, excuse-moi, ton objet, je veux bien le garder.
Ça va être la question de la
Gemara. Mais je prends aucune responsabilité.
Très très bien, très très bien. Ça va être la question de la Gemara va aller dans ce sens. Est-ce qu'on a répondu à votre question, M. Daniel ?
Il y a ni je veux jurer, ni je veux payer.
Oui, parce qu'il prend tout en compte.
Non, à partir du moment où moi, je demande à garder un objet, je me dis à David, excuse-moi, je prends aucune responsabilité.
S'il me jure, il n'y a pas de problème.
Maintenant, le chidouche dans les paroles de Rava, c'est que ce dialogue, d'accord ? Ni il a été fait verbalement, ni mentalement. C'est-à-dire, personne n'a pas... Au moment où je donne un objet à garder à quelqu'un, je ne dis pas, écoute, peut-être tu te feras voler, peut-être tu vas le perdre, peut-être ton chien il va le manger.
C'est lui qui fixe.
Ni moi je pense à ça, ni lui il pense à ça. Tu sais, quand on...
C'est une règle établie.
En tant que commerçant, comment que tu y penses chaque seconde ? C'est pour ça que je peux te répondre. C'est que les gens tout le temps, ils viennent te dire, garde-moi ça, garde-moi ça. Écoute, ici on ne garde rien, tu veux poser ici, pose. Il n'y a pas de responsable.
D'accord.
C'est
une règle établie pour tout le monde.
Comme commerçant, tu l'as vu.
Là, on parle de quelqu'un qui a décidé de garder, qui a dit oui, je garde.
Oui, mais tu je garde, tu prends plus de responsabilité.
Non,
d'accord.
C'est pas ce cas-là. Ah, c'est ton cas.
Là, on parle d'un autre cas, je suis d'accord.
Très bien.
Mais après, la logique, le jour.
Qu'est-ce qui nous apprend Rava, hein ? Rava, il nous apprend que dans la réalité de la vie.
Que l'objet, on te le prête et tu l'utilises.
D'accord. Rava, il nous apprend que dans la réalité de la vie, dans la réalité des choses, il y a des choses qui sont, comment on dit, tacitement. D'accord ? Qui sont tacitement comprises et qui sont tacitement sous contrat, même si on ne les a pas dit.
Implicite, tu veux dire.
Ce qui est implicite, exactement. Il y a ce qui est explicite, ce qui est implicite. Là, Agmara pose la question. Moi, je dis, attends, tu es sûr de ce principe que tu dis ? Tu es sûr de ce principe que tu dis que Yaakov, que moi j'ai dit à Yaakov que si tu te feras voler, l'objet t'appartiendra non pas à partir du 5 avril, ni à partir du 1er avril, mais à partir du 1er mars. Tu es sûr ? Attends, une question. Imagine-toi que l'animal que je t'ai donné à garder à Yaakov,
il meurt.
Non, l'animal a eu un enfant.
Ah.
Entre le 1er mars et le 1er avril.
À qui il appartient ?
Imagine-toi que l'animal,
il va t'offrir, il est
c'est une vache, enfin c'est un agneau, il a forcément des tontes. D'accord ? Des tontes de laine.
Et des tontes aussi. Des tontes.
D'accord ? Des tontes de laine. Et le rôle de Yaakov, lorsque je donne quelque chose à garder à Yaakov, une partie de la responsabilité de Yaakov, c'est également de tondre l'animal de temps en temps. Parce que sinon, ça fait souffrir l'animal. On est d'accord ? Très bien.
C'est jamais arrivé, ça.
À qui appartiennent les tontes ? À qui appartiennent les tontes ?
Alors, ça dépend.
Alors, rétroactivement.
Tu pourrais dire que ça appartient
à qui appartiennent les tontes ?
Ah non, au propriétaire du départ.
Oui.
Puisqu'il a passé volé.
Normalement, les tontes m'appartiennent.
Non,
mais tu m'as dit que... Il y a un accord tacite qui est fait, donc un accord implicite qui est fait, qui dit qu'en cas de vol, très bien, deux secondes, c'est pas fini.
Uniquement.
En cas de, très bien, en cas de vol, d'accord, l'objet appartiendra à Yaakov depuis le 1er mars.
Donc c'est un vol.
Maintenant imaginez-vous qu'il y a eu un vol et qu'il n'y a eu que la vache qui a été volée, mais pas son bébé. Qu'est-ce qu'on fait là ? Yaakov, il va dire, écoute, si tu dis que rétroactivement l'objet m'appartient, le bébé, il est à moi. T'as vendu l'objet avec son bébé.
Et les tontes ?
Et les tontes. Maintenant, c'est possible que le voleur n'ait pas volé les tontes, donc les tontes sont toujours là. Ouais. Alors, est-ce que ça voudrait dire que les tontes et le bébé appartiendraient également à Yaakov ? Bien qu'elles sont nées entre le 1er mars et le 1er avril. Donc bien avant que Yaakov a payé.
Qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Meir?
Attends. Matt, qui fait l'arabisera, il pose une question, il dit...
Il a été volé.
Il a ri, c'est comme ça... Non, pas du tout. Parce qu'on a dit que ça lui appartient rétroactivement. Donc rétroactivement, on date du 1er mars...
Oui, mais sur ce qui a été volé...
Ah non, pas du tout. Non. Non.
Ça dépend des conditions de départ.
Parce que si ça lui a pas été, si ça lui a pas été volé...
D'accord. Déjà, on va voir la question de Rabizera.
Il ne peut pas les acquérir.
Comment est-ce qu'il fait Rabizera? Rabizera pose la question, il dit, il arrive, c'est comme ça, à fil ou guisotea ou vladotea. Si c'est comme ça, dans ce cas-là, même guisotea ou vladotea, ça veut dire quoi? Ça veut dire même les tontes et les bébés, d'accord, Nami, il devrait lui appartenir. Donc même les tontes et les bébés qui sont nés entre le 1er mars et le 1er avril devraient lui appartenir. Al-Matania, pourtant, s'est enseigné dans une braïta. Houtz mi guisotea ou vladotea. Que les tontes et les bébés appartiennent à qui? Appartiennent toujours
au chômeur.
À moi, bien c'est sûr. Pas Yaakov.
Il arrive, il est
donc, a priori, ça va à l'encontre de ce que Rava a dit. Rava a posé une question à Rabbi Zerob et à Midrash.
C'est un autre cas.
Il lui a dit, attends, pas du tout, c'est pas un autre cas. Il lui a dit, comment toi, Rava, tu peux me dire qu'il y a un accord implicite qui est fait ici, qui dit que s'il y aura un vol, dans ce cas-là, l'animal appartiendra à Yaakov depuis la date du 1er mars, dans ce cas-là, ça voudrait dire que les tontes éventuelles appartiendraient à qui? Appartiendraient également à Yaakov, et pourtant l'Alakha dit le contraire. Donc il y a un problème, Rava, dans ce que tu dis. Donc il faut rajouter peut-être une clause dans ton accord.
Une autre
en plus.
Chose, voilà.
D'accord?
Voilà, la vache n'appartient plus au 1er mars, c'est pas les produits de la
vache. Et la Amar Rabbi Zera, d'accord? Et la Amar Rabbi Zera, seulement Rabbi Zera a dit, qui est Omerlo, Routz Migidota Voladotea. C'est comme si...
Voilà.
Que moi je dis à Yaakov, je te donne mon animal, sauf, d'accord,
les toisons,
sauf
et
les toisons et les petites. Attends, là, moi je dis, attends. On m'a eu Pascal, qu'est-ce qui te fait dire ça? Puisque c'est implicite. Donc comme c'est implicite, il faut se baser sur la logique. Donc il faut que tu me trouves une logique pour m'expliquer que dans l'accord que j'ai fait avec Yaakov, je suis prêt à lui donner seulement l'animal, mais pas les tontes. On est
et
d'accord
petits, et, les petits.
Et les petits. Donc pas les toisons et les petites.
Et si on lui vole d'accord le bébé, il va le grand.
Très bien. Donc tu es responsable du bébé aussi, c'est évident.
Ah. On est responsable, mais ça nous appartient pas.
Nous, ce qui nous dérange, c'est que Rabbi Zera a dit que c'est comme si que le propriétaire a dit, d'accord, je te donne l'objet, mais qu'on a rajouté une clause. Alors, n'oubliez pas que c'est implicite. Et puisque c'est implicite, il faut trouver une raison de dire pourquoi on a rajouté cette clause implicite, parce que sinon, il n'y a pas de raison de dire qu'elle a été faite. On est d'accord? Je veux bien qu'on a rajouté cette clause, mais puisque c'est implicite, il faut m'expliquer pourquoi tu considères qu'elle a été faite dans le subconscient de la personne. Ouma et Pascal, pourquoi? Donc qu'est-ce qui te fait dire ça? Ça c'est la Gemara qui pose la question. La Gemara a dit Stama de Milta. Que Stama de Milta, ça veut dire que dans la logique des choses, d'accord? La logique des choses, qui dit que quoi? Il dit que Shifra de Ata me Alma avid inish de Makne. Mais Shifra de Migufa, lo avid inish de Makna. La logique des choses, elle dit que lorsqu'une personne va donner quelque chose à quelqu'un, d'accord? Lorsque une personne est prête, n'oubliez pas qu'on parle ici d'un chômeur chinam. Un chômeur chinam, c'est un gardien bénévole. Donc un gardien bénévole, on est prêt à lui faire une certaine, comment on appelle ça,
faveur.
Une certaine faveur. D'accord? Et la Gemara, elle parle du principe suivant. Elle dit que le 1er mars, lorsque dans mon subconscient, je me dis que peut-être qu'il va être volé, et que si l'objet va être volé, je suis prêt à donner à Yaakov l'objet depuis le 1er mars. Et donc, de ce fait, je vais lui donner également, je vais lui offrir, la faveur que je vais lui faire, c'est que je vais lui offrir également, ben le kefel, le double, le knas éventuel que le voleur va payer. Qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara dit, la logique dit que dans mon subconscient, je suis prêt à offrir seulement un fruit externe, d'accord, extérieur à l'objet. Ça veut dire, par exemple, le vol, d'accord, le double que le voleur devra payer, qui n'a rien à voir avec mon animal, c'est pas un retour d'investissement. On est d'accord? Mais on considère que le retour d'investissement, je ne suis pas prêt à payer. Encore une fois, j'explique ce que je veux dire ici. On considère...
Il ne voudra pas payer le GFM.
Qu'il y a deux choses, il y a deux catégories. D'accord?
En fait, c'est pas nous.
C'est
le rôle qui est cher,
d'accord. André Vacha. Alors, il y a ce qu'on appelle, et ça je pense c'est un principe qui est très important d'appliquer dans les affaires aussi, dans le subconscient surtout. Il y a ce qu'on appelle un retour d'investissement. C'est quoi un retour d'investissement? C'est-à-dire que j'ai investi sur quelque chose, donc j'ai acheté un produit, et ce produit-là va donner des fruits. Vous êtes d'accord? Ça s'appelle un retour d'investissement. Mais il y a un cas qui n'est pas du tout un retour d'investissement. Par exemple, j'avais un objet, l'objet vaut une certaine valeur, on m'a volé l'objet. Oui, on m'a volé l'objet, l'objet a été volé. Très bien. Et on va retrouver le voleur, et le voleur va me rendre, donc le voleur va me rendre le double. L'objet volé 20 euros, l'objet, le voleur va me rendre 40 euros. Est-ce qu'on peut dire que c'est un retour d'investissement ?
Si l'objet était censé rapporter plus.
Est-ce qu'on peut dire que les 20 euros supplémentaires que je recevrai du voleur, c'est un retour d'investissement ?
Non.
Hmm ? Ce que vous dites ?
Ça peut faire un investissement.
Ça dépend, mais normalement, non.
Bien sûr que non, il n'y a pas d'investissement.
Oui, parce qu'il n'y a pas d'assurance.
Le retour d'investissement, non, mais c'est pas seulement ça. C'est quoi un investissement ? Un investissement, c'est que j'ai acheté un livre, aujourd'hui il vaut 20 euros, demain il vaudra 25. Donc les 5 euros que j'ai gagnés, là, c'est un retour d'investissement.
C'est pas sûr que j'ai gagné,
mais... Très bien.
C'est ça.
Mais ce que je veux dire ici, c'est que il y a ce qu'on appelle un retour d'investissement. Ça veut dire ce que l'objet va produire.
On est sûr qu'il va le produire.
Très bien.
Mais là, dans ce cas, on n'est pas sûr.
Très bien. Si, on sait qu'il va produire. On sait, par exemple, qu'un objet prend de la valeur avec le temps.
Non, mais dans le cas du vol.
Très bien, très bien.
On a dit qu'on ne sait pas si on va se retrouver.
Non, mais là, c'est pas seulement ça. C'est que là, c'est pas un retour sur investissement.
Si t'as pas lu le livre, il t'a rien rapporté.
D'accord.
Le retour.
Attendez. N'oubliez pas ce que je vais expliquer ici. Je le formule un peu différemment que la Gemara, mais c'est pour essayer de simplifier, j'espère en tout cas. Parce que c'est pas simple, après la Gemara va compliquer, mais on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'est qu'il faut bien faire la différence entre un retour sur investissement, ça veut dire que j'ai investi sur quelque chose et qui me revient, et entre un bénéfice qui me vient sur un objet, mais un bénéfice que j'ai pas investi pour ça. Qu'est-ce que dit la Gemara ? En date du 1er mars, lorsque je donne un objet à garder à Yaakov, et que, implicitement, je me dis que si un jour Yaakov se fera voler, je suis prêt à lui donner, d'accord ? Je suis prêt à lui offrir, d'accord ? Je suis prêt à lui offrir, donc je suis prêt à dire que l'objet lui appartient depuis le 1er mars, rétroactivement. Qu'est-ce que dit la Gemara ? La Gemara dit, quand on dit que je suis prêt à offrir à Yaakov, je suis prêt à lui faire une faveur, la faveur a des limites. C'est quoi la limite des faveurs ? C'est que je suis prêt à lui faire la faveur et lui offrir quelque chose qui n'est pas un retour sur investissement. C'est quoi le retour sur investissement ? Ça veut dire le kefel, que moi, je compte pas que l'objet va être volé. Ça m'intéresse pas que l'objet soit volé.
Et on n'est pas sûr.
Et donc, on n'est pas sûr de le retrouver. Donc si l'objet va revenir, va lui ramener 20 euros à Yaakov, pourquoi
oui,
pas.
Mais
c'est pas un retour sur investissement.
C'est
de l'éventualité. C'est pas un retour sur éventuellement. Mais maintenant, c'est pas un retour sur investissement. Mais maintenant, si tu me poses la question, Mamadi Azoulou, tu dis, est-ce que tu es prêt à y donner à Yaakov également les fruits de cet objet-là ?
Ça commence à bien faire.
Je suis pas d'accord. J'ai investi sur un objet, les fruits de mon investissement,
cadeau,
pour Yaakov. Je veux bien lui faire un cadeau, lui dire que s'il prend des risques, dans ce cas-là, je lui donne les 20 euros éventuels qu'il récupérera du voleur, ça je veux bien. Puisque ça, c'est un fruit extérieur à l'objet, c'est pas un retour sur investissement. Mais le retour sur investissement, d'accord, c'est-à-dire les fruits de mon investissement, ça je suis pas prêt à lui donner.
C'est ça pour ça qu'on parle du subconscient.
Et ça avec ça, c'est extraordinaire comme Rabbi Zera, il explique. Non, c'est même pas Rabbi Zera qui dit ça, c'est la Gemara qui explique ce que Rabbi Zera voulait dire. Qui dit qu'on a rajouté une clause supplémentaire, une clause implicite, d'accord ? Dans la tête de Mendy Assouline, on date du 1er mars. Et bien qu'en date du 1er mars, on n'a jamais pensé au vol, on considère qu'en date du 1er mars, j'ai été prêt à donner à Yaakov seulement ce qui n'est pas le fruit de l'objet.
Oui, mais
lui aussi, il le sait, de toute façon. Yaakov, il le sait. Hein.
Cette question n'est pas bête.
Il n'est pas bête aussi.
Parce que tout marchait à partir du moment où il y avait une condition ethnas. À partir du 1er avril. Mais maintenant, si les petits appartiennent à toi...
Oui. Non, ils appartiennent pas à moi. Oui, pardon, à moi.
Quoi qu'il arrive.
Oui, oui.
Hein, même si on me vole la vache.
Oui.
D'accord. Et si maintenant on me vole les petits ?
Oui.
Ça ne peut plus marcher.
Pourquoi ça ne marche pas ?
Parce que la condition, elle est faite qu'à partir de la vache, par contre.
Non, parce que quand je prends la responsabilité de quelque chose, je prends la responsabilité de la chose et de tout ce qui suit.
Maintenant, on me prend les petits, on me laisse la vache.
On me prend les petits, mais tu payes les petits.
Mais non, puisque pour que ça marche...
Non. Quand je prends la responsabilité de quelque chose, je prends la responsabilité de la chose et de tout ce qui est lié. Ah oui. Imagine-toi qu'on me donne les pots de terre dans lesquels on plante quelque chose.
Oui.
On me le donne avec une fleur.
Un sur 10.
Ben, je suis responsable de 10 fleurs. Parce que quand je t'ai donné un pot, je ne t'ai pas donné seulement un pot pour la fleur, je t'ai demandé de faire attention au pot.
D'accord.
Très bien. Mais là, je trouve que ce qui est extraordinaire dans ce qu'on a fait dans la Gemara, c'est qu'on a été capable de trouver des clauses qui n'existaient pas. Et on a été capable de trouver ces clauses dans le subconscient. Ça, c'est fort.
Mais encore, c'est extraordinaire.
C'est
Amori Metanaïm qui font ça. C'est
parce que c'est des commerçants, les choses comme ça. Hein.
Oui, mais c'est fort. Quand on est capable non seulement d'imposer une logique, mais d'expliquer la logique, c'est fort.
C'est des commerçants.
D'accord ? C'est très fort.
C'est la logique, c'est ça.
C'est mon business, non mais...
Vous voulez qu'on finisse encore 3-4 lignes ? On peut en faire encore 3-4 lignes ? Parce qu'après, c'est un autre sujet, c'est pour ça. C'est la prochaine.
C'est un autre sujet, alors.
Bien qu'on l'ait dépassé un petit peu aujourd'hui. Quelle heure ? Il est déjà moins 20 ?
Ouais, moins 20.
Non, elle n'est pas à l'heure, ta montre. On a commencé à 35 aussi. Bon. Ikadé Amré, il y en a qui disent.
35.
Amar Rava, d'accord. Que Rava a dit. Naate ke omerlo, lirchetiganev, vetirtse vetchalmeni, samur legnevata, knoyalecha. La vérité, c'est que ça, c'est... Bon, quelle heure il est? 35.
Vaut mieux peut-être faire une pause.
Non, je m'arrête.
S'arrête
là parce que ça va m'embrouiller.
5 minutes pour les fumeurs et les autres, ils préparent le café.
Ikadé Amré, la Gemara donne une deuxième réponse. Pour expliquer donc la vie de Rava. Pour expliquer comment apparemment il y a une condition implicite qui a été faite au moment qu'il y a une condition implicite qui a été faite. Jusqu'à présent, on a expliqué que c'est quoi la condition implicite. La condition implicite a été que, au cas où tu te fais voler le 1er avril, il t'appartiendra à partir du 1er mars. Et qu'à des Amré, il y en a qui disent, Ama Rava, Rava dit, Naase que Omerlo. C'est comme si qu'il lui a dit, Lircheti Ganev, si l'objet va être volé, Vetirtse ou Tchalmini, et que tu voudras me payer, Samur Liknevata Knouyalach. Cette vache t'appartiendra juste avant le vol. Ça veut dire que c'est... Qu'on appelle ça? C'est subjectif. Enfin, c'est subjectif. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu t'es fait voler le 1er avril, par exemple, 1er avril à 14h, cette vache t'appartiendra à partir de 1er avril 13h59. Qu'est-ce qu'on gagne avec cette réponse? Qu'est-ce qu'on gagne? Maradi Maï Benayou, qu'est-ce que ça change? Ika Benayou couché de Rabbi Zera. Premièrement, ça change par rapport à la question de Rabbi Zera. Rabbi Zera a posé la question, il avait dit qu'est-ce qu'on fait avec les tontes? Les tontes qui ont poussé entre le 1er mars et le 1er avril. Si tu me dis que rétroactivement je lui donne l'objet, non pas à partir du 1er mars, mais à partir du 1er avril 13h59, oui, est-ce qu'on a le problème des tontes? Est-ce qu'on a le problème des tontes?
Oui.
Je répète. Rabbi Zera a posé une question sur Rava, hein. On l'avait pris, on avait dû bon, trouver des réponses, mais Rabbi Zera a posé une question sur Rava, il avait dit, oui, mais si tu me dis que tu lui donnes l'objet rétroactivement depuis le 1er mars, qu'est-ce que tu vas faire des tontes? Est-ce que tu penses que les tontes vont lui appartenir aussi à Yaakov? C'est la question de Rabbi Zera. Selon le deuxième avis qui interprète la vie de Rava, enfin selon le deuxième avis qui nous est rapporté sur la vie de Rava, il dit qu'à partir de quand rétroactivement ça va appartenir à Yaakov, d'accord? Non pas à partir du 1er mars, que là, dans ce cas-là, on aurait effectivement le problème des tontes, des toisons, mais c'est à partir du 1er avril 13h59.
Elles ont poussé, entre-temps.
Très bien. Mais ça veut dire que les tontes qui ont poussé entre le 1er avril et le 1er mars, bah, c'est évident qu'elles m'appartiennent toujours. Donc la question ne se pose pas.
Oui.
C'est la première réponse. Inami ou bien, encore une autre différence, pour expliquer la différence si la transaction rétroactive se fait au 1er mars ou au 1er avril 13h59. De Kaima Beagam. Deuxième possibilité, c'est si au 1er avril 13h59, la vache était dans le marécage. Ça veut dire qu'elle n'était pas dans le domaine de Yaakov. Et alors, il y a un principe qu'au moment de l'acquisition, il faut que l'objet se trouve dans le domaine de Yaakov. Donc si au 1er mars, la vache était obligatoirement dans ton domaine, puisque tu l'as pris chez toi.
Oui.
Oui. Mais au 1er avril 13h59, est-ce que la vache était obligatoirement chez toi? Compliqué?
On commence.
On a deux possibilités. Rappelez-vous, c'est quoi la réponse de Rava? Rava a expliqué, il a dit que ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut dire qu'en vérité, pour pallier au problème de un Adam Makné d'avoir chez le Balaolam, pour expliquer que la vente n'était pas fictive, il faut dire qu'en vérité, moi j'ai donné à Yaakov l'objet rétroactivement. La question se pose, c'est rétroactivement à partir de quand? Est-ce que rétroactivement à partir du 1er mars, ou ça veut dire date du dépôt, ou rétroactivement à partir du 1er avril 13h59, juste avant le vol? Quelle est la différence? D'accord? Si. Alors, il y a deux cas de figure dans lesquels on va avoir une différence. Premier cas de figure, c'est quoi? C'est les tontes qui ont poussé entre le 1er avril et le 1er mars. À qui elles vont appartenir? D'accord? Si tu me dis que la vente a démarré à partir du 1er avril 13h59, dans ce cas-là, la question ne se pose même pas sur les tontes, puisque les tontes ont poussé avant. C'est promis, ça c'est la première différence. Donc la question de Rabbi Zera ne serait même pas posée par rapport aux tontes. Deuxième différence qu'on a, c'est quoi? C'est des Kaima Beagam, c'est si au 1er avril 1359, la vache se trouvait Beagam, ça veut dire au marécage. Et alors? Si la vache se trouve dans le marécage, Yaakov ne peut pas prendre l'acquisition de cette vache. Pourquoi? Parce que si la vache à 13h59 était au marécage et qu'elle a été volée au marécage, oui, Le problème qu'on a, c'est quoi? C'est que au marécage, c'est pas un domaine qui appartient à Yaakov. Donc, puisque c'est pas un domaine qui appartient à Yaakov, Yaakov ne peut pas acquérir la vache.
C'est-à-dire, il lui a donné l'objet à garder.
Oui.
Et l'objet, il est pas là.
L'objet n'est pas là. Si tu me dis que l'acquisition se fait est rétroactive depuis le 1er mars, le 1er mars, la vache était obligatoirement chez Yaakov, puisque je lui ai donné à garder.
Donc, c'est un autre cas, oui.
Mais si tu me dis que la vache était à 13h59 au marécage et qu'elle a été volée au marécage, donc même si tu me dis que rétroactivement j'ai donné la vache à Yaakov à 13h59, mais il faut que le Kinyan démarre.
Oui.
Le Kinyan ne peut pas démarrer puisque la vache n'est pas dans le domaine de Yaakov. Donc voilà pourquoi on a besoin des deux réponses de Rava. D'accord ? Qu'il faut un peu des deux réponses de Rava. Soit on va dire que l'acquisition se fait rétroactivement le 1er avril, 13h59, soit on va dire que l'acquisition se fait rétroactivement 14h. C'est pour ça que c'est important de faire la Khazara. Je voulais faire ça la semaine prochaine, parce qu'il y a beaucoup de détails. Et pourquoi j'ai voulu faire ça maintenant? Parce que comme après c'est un autre sujet, donc je me suis dit c'est dommage de... La semaine prochaine, pour se remettre...
Je reprends encore ma question, mais le petit,
oui.
Le petit de vache...
Oui.
Si jamais on te vole.
Oui, je suis responsable.
Tu peux pas faire la même opération puisque le 1er avril, il t'appartenait pas. Il était pas né.
La question n'est pas est-ce que je suis responsable ou pas. La question c'est est-ce qu'il m'appartient ou pas. Est-ce qu'il t'appartient ou pas.
Il m'appartient ou pas.
C'est une autre question. Alors, c'est sûr qu'il ne m'appartient pas. Mais pourquoi il ne m'appartient pas?
Parce qu'il n'existait pas au premier.
Non. Justement, ça dépend. Soit tu expliques comme le deuxième avis de Rava, comme la deuxième possibilité de Rava, qui dit que de toutes les façons, je t'ai donné l'objet, à toi Yaakov, seulement à partir du 1er avril 13h59.
Voilà.
Donc toutes les tentes qui ont poussé avant, je ne les ai pas données.
Elles
n'existaient pas. Enfin, n'existaient pas. Elles existaient déjà.
Alors qu'est-ce qui se passe?
D'accord. Donc c'est évident qu'elles m'appartiennent toujours. Pas à toi. Mais ce qu'on a expliqué ici, c'est que même si tu vas me dire que la transaction s'est faite, qu'on dit que rétroactivement l'objet m'appartient depuis le 1er
mars.
Depuis le 1er mars, on considère que je te donne l'objet depuis le 1er mars, sauf, comme ce qu'on a expliqué, je te donne l'objet, mais je te donne l'objet sauf cet oiseau, d'accord? Et c'est bon. Pourquoi? Parce qu'on a, c'est là le principe qu'on a expliqué, que vous allez faire dans la Khazara maintenant, c'est la différence entre le retour sur investissement, d'accord? Et ce qui est extérieur à l'objet.
Oui, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'il en est des petits chantévols?
Je les rembourse.
Mais non, puisque... La condition que tu as fait lorsque tu as fait l'opération,
non.
C'est que depuis le 1er mars.
La condition, encore une fois, hein, c'était la condition sur. La condition n'est pas sur le degré de responsabilité qu'il va avoir. Ça ne change pas. Tu es responsable de l'objet et de tout ce qu'il faut gérer pour
autour
de l'objet.
Le vol, qu'est-ce que tu fais?
La question se pose autour de est-ce que ça m'appartient ou ça m'appartient pas. Ça, c'est évident que ça ne m'appartient pas les animaux, les enfants.
T'es responsable.
T'es responsable, c'est tout, tu payes.
Tu payes?
Oui.
Et tu récupères le double?
Quoi?
Sur le voleur?
Tu récupères le double, c'est une bonne question.
C'est ça.
Ah, ça, on va voir après.
Il y a un truc qui n'est pas logique. Donc en fait, tu rends service, mais si tu rends service, c'est qu'on tombe dessus si on te...
Dessus, tu prends responsabilité, tu es responsable.
Ouais, c'est, en même temps, tu rends service.